Nous avons vu dans les semaines passées le récit de la création. Nous sommes déjà rendus à la quatrième semaine où nous étudions le récit de la Genèse. Nous avons vu le récit de la création de l'univers au complet, tout le monde qui a été créé par Dieu en 6 jours, en 6 étapes bien définies, pour culminer vers le summum de sa création, qui est l'homme. Dieu a placé, a couronné sa création en plaçant l'homme et la femme au centre du jardin d'Éden, comme nous l'avons vu la semaine passée avec Ronald Lunderman, au centre de ce paradis terrestre où tout était parfait, tout était beau. Nous avons vu même qu'à ce moment, c'est à ce moment-là que Dieu a institué le mariage, l'union bénie entre l'homme et la femme, et qu'il a béni cette union en leur disant « Allez, multipliez la terre, multipliez-vous sur la terre et dominez la terre. » Une bénédiction riche d'un bonheur qui se voulait éternel. Malheureusement, la situation parfaite dans laquelle se trouvait Adam et Ève n'a pas duré. Et nous étudions aujourd'hui le chapitre qu'on pourrait intituler « La chute de l'homme ». Je vous invite à tourner dans Genèse 3. Genèse, chapitre 3. Prions un instant. Merci Seigneur pour ce texte qui nous parle encore aujourd'hui. Et merci pour le lien que tu fais avec ce qu'on vient d'expérimenter avec la table du Seigneur. Merci de nous rappeler ton sacrifice et nous rappeler pourquoi tu as dû faire ce sacrifice par ce texte dans la Genèse où on va pouvoir lire la chute de l'humanité et quel plan merveilleux tu as pour l'humanité. Dirige-nous Seigneur pendant cette étude. Ouvre nos esprits, notre cœur. Parle-nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, lisons Genèse, chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Mais la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissaient le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers la brise du soir. Et l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et l'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles. Tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau dont il les revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende aussi la main pour prendre de l'arbre de la vie et en manger et vivre éternellement. » L'Éternel Dieu leur envoya du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. Il y a beaucoup de stock dans ce passage-là, mais on voit trois aspects à la chute de l'homme. On voit premièrement la mise en épreuve. L'homme a été mis à l'épreuve. Ensuite, on voit malheureusement qu'il a chuté. Et tout ce qui entoure cette chute-là, en quoi ça consiste? Puis on voit ensuite le jugement de Dieu. Une conséquence directe de sa chute, mais une conséquence qui avait été annoncée, et c'est un jugement de Dieu. On voit évidemment que le serpent dont il est question ici est plus qu'un animal, parce qu'il parle. C'est ce qui a fait penser à certains qu'il s'agit d'une fable, un peu comme une fable de La Fontaine. Mais je pense qu'on doit croire, et c'est la majorité d'entre nous, on doit croire que c'est littéralement arrivé. C'est une histoire vraie. Le serpent était plus qu'un serpent, naturellement. La Bible ne dit pas que la race des serpents parlait. Ce serpent-là, en particulier, parlait. Il était intelligent. Et on voit même qu'il avait une intention mauvaise, malsaine. Il était mauvais. La Bible même nous apprend, ensuite, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, que ce serpent n'est nul autre que Satan lui-même, le démon, le prince des ténèbres. Dans Apocalypse 12:9, il dit, « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » On doit croire qu'il est réellement apparu sous la forme d'un serpent. Même dans 2 Corinthiens 1, Paul rend ce témoignage. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité, de la pureté à l'égard de Christ. » Mais Satan est certainement capable d'apparaître sous la forme d'un animal, puisqu'il peut même apparaître sous la forme d'un ange de lumière. Il va apparaître dans la forme que Dieu lui permet. Il est le père du mensonge, le père de la tromperie. Jésus dit de lui, lorsque Jésus condamne les méchants hommes qui sont devant lui, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Il est le contraire de la vérité. » Puis même selon les paroles de Jésus ici, il est meurtrier depuis le commencement. On voit bien dans ce passage-là que par son action, il a commis un grand meurtre, le meurtre de l'humanité entière. C'est le premier meurtrier. Il a mené l'homme à la mort. Mais c'est étonnant de voir Satan se trouver aussitôt dans l'histoire. Dans le jardin d'Éden parfait, le lieu de paix, le paradis terrestre. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comment Dieu a pu autoriser à ce qu'il soit là? C'est l'endroit où Dieu venait pour être en relation avec l'homme, en communion avec lui. Au verset 8, on voit qu'il parcourait le jardin. Dieu lui-même parcourait le jardin avec la brise du soir. Lorsqu'il parlait, Adam et Ève pouvaient vraiment entendre sa voix, communiquer avec lui. Et même Dieu lui-même leur a fabriqué des habits de peau. Il les a revêtus. Il était physiquement là pour être en communion avec sa créature. Donc, si Satan s'y trouvait, c'est forcément parce que Dieu lui avait permis. Dieu l'avait autorisé. On pourrait trouver ça étrange que Dieu ait laissé Satan tenter Adam et Ève. Puis même, à la base, on peut trouver ça étrange que Dieu ait même placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal en plein milieu du jardin, comme une tentation, comme un carré de sucre à côté des mouches. Même certains vont jusqu'à dire que, en réalité, c'est de la faute de Dieu. C'est Dieu qui a tenté l'homme, qui lui a tendu un piège. Mais Dieu ne tente personne. Comme il est dit dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. C'est Satan qui tente. On le voit à plusieurs reprises. C'est Satan qui est allé tenter Job en lui envoyant toutes sortes de malheurs pour le faire tomber, pour le pousser à renier son Dieu. Mais c'est Dieu qui utilise Satan pour mettre à l'épreuve. Et dans ce cas-ci, on voit que c'est Dieu qui a permis à Satan de tenter l'homme et la femme pour mettre à l'épreuve l'homme. Mais il y a une grande différence entre une mise à l'épreuve et une tentation. Mettre à l'épreuve, c'est positif. C'est pour que la foi de la personne ressorte, qu'elle soit révélée, que sa confiance en Dieu vienne à son esprit, qu'il prenne conscience, qu'il met sa confiance en Dieu, que sa foi se révèle, qu'il en soit plus fort, que sa relation avec Dieu soit plus forte. C'est positif. La tentation a pour but de faire tomber, de faire chuter, de détruire toute confiance. Le même événement sert deux causes. Dans Deutéronome 8, Dieu dit, « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » Il s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, « Tu t'en souviendras afin de t'humilier. » C'est pour ça qu'il t'a fait marcher 40 ans dans le désert. « Afin de t'humilier et de t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. » Et si tu observais ses commandements, oui ou non. C'est pour donner une occasion de mettre sa confiance en Dieu, de manifester sa foi. C'est aussi une occasion de prouver son obéissance envers Dieu, de prouver sa fidélité, sa soumission volontaire à Dieu. Toujours dans Deutéronome, au chapitre 30, Dieu dit au peuple d'Israël, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Choisis. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. La mise à l'épreuve a pour but une bénédiction. Lorsqu'on échoue l'épreuve, la faute nous revient. L'épreuve est une bonne chose pour le bien de l'homme, mais la tentation, elle, est mauvaise. Mais encore une fois, c'est Dieu qui utilise Satan. Et c'est Dieu qui a permis ce jour-là que l'homme soit tenté pour être mis à l'épreuve. La tentation du serpent ici est très subtile. Ce n'est pas pour rien qu'il ait dit qu'il était la plus rusée des créatures de Dieu. Sa question même est malhonnête à la base. C'est faux. Lorsqu'il dit, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Non. Dieu avait dit, vous pouvez manger librement de tous les arbres du jardin, sauf de celui-là. Mais Satan a déformé. Et ce qu'il sème dans l'esprit d'Ève, c'est un doute. Et il présente cet interdit-là, qui était sur seulement un arbre, comme étant énorme, comme étant une injustice, comme étant vraiment une vie d'esclave, de souffrance. Il fait douter de la bonté de Dieu. Alors que Dieu, lorsqu'il avait terminé de tout créer, non seulement il a dit que c'était bon, c'était même très bon. Mais Satan est en train de mettre le doute dans l'esprit d'Ève. C'est peut-être pas si bon que ça. Tu as une grande souffrance de ne pas pouvoir manger de cet arbre-là. C'est énorme. Et il a rendu Ève ingrate envers la bonté de Dieu. Il a fait paraître Dieu comme un Dieu lointain dans son palais d'ivoire, un Dieu avare, un Dieu égoïste, qui veut garder ses bonnes choses pour lui et en priver sa créature. Un Dieu injuste, un Dieu menteur même. Parce que Ève lui dit, on va mourir si on en mange. Satan, il dit, vous ne mourrez pas. Il fait même passer Dieu pour un menteur. Et il le descend au plus bas qu'on peut le descendre. mais il trouve une oreille pour entendre. Et la réponse d'Ève montre aussi qu'elle-même avait une certaine distorsion de la vérité. C'est peut-être causé par le discours de Satan, mais elle-même, lorsqu'elle répond, elle dit « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Elle ne dit pas « Nous pouvons manger librement. » Elle a enlevé « librement ». Bon, c'est un détail, mais elle dit « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. » Mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Il a dit « Vous n'en mangerez pas. » Elle déforme un petit peu. Elle commence à déformer la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit « Vous n'y toucherez pas. » Puis même si Dieu n'avait pas spécifiquement dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai commandé, vous n'enlèverez rien », c'était sous-entendu. Il l'a dit clairement dans Deutéronome, il dit « Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, vous n'en retrancherez rien, vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les donne. » Donc, d'ajouter une parole à l'Éternel et d'en enlever un peu, Ève est en train d'ouvrir la porte au péché. Elle est en train de monter son propre piège pour mettre le pied dedans. Puis le désir que Satan a mis dans le cœur était de pouvoir déterminer soi-même, sur la seule base du discernement humain, ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est bien de ce qui est mal. C'était ça l'interdiction, au fond. Dieu ne voulait pas que l'homme décide lui-même ce qui était bien ou mal. Ce droit revenait à Dieu. C'est Dieu, lorsqu'il a créé la création, qui, à la fin des jours, disait, en voyant ce qu'il avait fait, que c'était bon. C'est Dieu qui a déterminé que c'était bon. Et à la fin de la création, qui a dit « c'est très bon ». Puis en hébreu, le mot « bon » et le mot « bien », c'est le même mot. Donc, pour discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, de ce qui est bien, de ce qui est mal, c'est à Dieu de le déterminer. Et à l'origine même, l'homme et la femme n'avaient même pas la capacité d'en juger. Mais Satan ici est en train de mettre l'idée dans la tête « vous pouvez arrêter de dépendre de Dieu pour juger de ce qui est bien et mal ». Vous pourriez atteindre son niveau et juger vous-même de ce qui est bien et mal. Jugez vous-même de ce qui est bon de faire, ce qui est mauvais. En cela, vous serez les égaux de Dieu. C'est le désir d'indépendance. Et ce désir d'indépendance-là engendre quoi? L'orgueil. Qui produit une foule de péchés. Puis l'orgueil produit encore un plus grand désir d'indépendance. C'est une roue après qui, lorsqu'elle est démarrée, ne s'arrête plus. Le désir d'être comme des dieux. Mais la connaissance du bien et du mal n'est pas mauvaise en soi, lorsque cette connaissance du bien et du mal est basée uniquement sur le jugement de Dieu. C'est ce que le roi Salomon a demandé à Dieu. Lorsqu'il s'est trouvé à un jeune âge devant diriger le peuple, il manquait d'expérience, peut-être manquait de connaissance dans les Écritures, il manquait de connaissance dans ce que Dieu sait qui est bon et ce qui est mauvais. Et ça a été sa prière à Salomon. « Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple si ce peuple si important? » Et cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. C'était une bonne chose. Mais ce que Salomon demandait, ce n'était pas le pouvoir de juger lui-même de ce qui était bon ou mauvais. C'était de connaître ce que Dieu juge être bon et mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de vouloir juger selon sa propre sagesse. Et c'est le désir du monde dans lequel on vit. Selon le monde, il n'y a pas de vérité absolue. C'est la tendance là où on s'en va, bien, surtout au Québec. Il n'y a pas de vérité absolue. Dans le fond, chacun est juge de décider ce qui est bien, de ce qui est mal. Tu crois que c'est bien, mais tant mieux pour toi. Moi, je ne crois pas que c'est bien. Chacun a sa propre échelle de valeurs. Et les valeurs qu'on doit adopter de manière commune dans la société, bien, on va prendre ce que la majorité croit être bon. Si la majorité croit que l'avortement, c'est bon, c'est bon. Si la majorité croit que le mariage entre deux personnes du même sexe est bon, on va l'adopter comme étant bon. Si la majorité croit que la drogue est bonne parce qu'elle peut être un bon usage, un bon échappatoire anti-stress, bien, on va en faire une loi pour le légaliser. On bâtit nos valeurs de société en fonction de ce que l'on croit être bien ou mal, sans aucun fondement solide. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Même Shakespeare, il disait dans son œuvre Hamlet, c'est son personnage Hamlet, parce que peut-être pas Shakespeare lui-même, mais c'est son personnage qui dit « Rien n'est bon ou mauvais en soi. C'est notre pensée qui rend les choses bonnes ou mauvaises. » Mais toute l'humanité a été prise dans ce piège-là de vouloir se faire égal à Dieu pour juger lui-même. Et ça, donc, Satan ne proposait rien de moins que l'indépendance de Dieu, ce qui est très grave, là. C'est la créature qui rejette son Créateur. Mais l'homme créé à l'image de Dieu ne peut pas exister indépendamment de Dieu. C'est une folie. Est-ce que le reflet de la lune sur l'eau, l'image de la lune, peut exister sans la lune? Être indépendant, c'est être destiné à mourir. Mais Satan lui-même, au fond, n'est une créature. Il se présente comme un être indépendant, mais il n'est qu'une créature sous le contrôle de Dieu. Créature méchante, qui va périr pour l'éternité, mais il reste sous les limites fixées par Dieu, sous sa souveraineté. Il n'est qu'une créature, lui aussi. C'est faux de croire qu'il est une force du mal qui a éternellement combattu le bien. Avant qu'il soit créé, il n'existait pas. Seul Dieu est éternel. Puis même la forme, le fait que sa forme visible, lorsqu'il a apparu à Adam et Ève, était un simple serpent, ou il y avait peut-être des pattes à l'origine, on ne sait pas. Mais c'était une bête des champs qui était destinée à être sous la domination de l'homme. Ça montre encore là qu'il était soumis à Dieu. Il n'a pas pu apparaître comme un grand titan pour terroriser ou pour imposer sa suprématie. Il était limité dès le départ par Dieu. Malheureusement, l'homme n'a pas dominé sur lui comme il aurait dû. L'homme a été placé dans le jardin d'Éden, sur la terre, pour dominer sur les animaux des champs. Et il suffit d'un animal rusé qui vient le tenter, puis il se met sous sa supériorité, sous sa domination. Puis c'est intéressant de voir les trois aspects de la tentation ce jour-là. Les trois aspects de la tentation à Ève. C'est le même truc du diable qu'il a repris à travers les époques. Ève a vu, au verset 6, « La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. » Ce sont les trois mêmes tentations que Jésus a dû subir lorsqu'il était dans le désert, tenté par le diable. La satisfaction des désirs physiques. Satan lui a dit « Ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Ensuite, la tentation d'obtenir ce qui plaît au regard. Satan lui a montré tous les royaumes, la gloire des royaumes qu'il était prêt supposément à donner à Jésus. Puis le troisième aspect, c'est l'orgueil de vouloir être indépendant. L'orgueil d'être son propre maître. Il a amené Jésus au sommet du temple en vue des gens. On ne sait pas s'il était en vue des gens lorsqu'il était au sommet du temple, mais il lui a proposé de se jeter en bas, que les anges viennent le secourir, faire un coup d'éclat et par là être le maître, mais aller contre la volonté de son Père. Il l'a tenté par l'orgueil. Les mêmes trois tentations, les mêmes trucs de ce même diable. Et ce sont les mêmes attraits qui sont pour nous aujourd'hui. Peu importe dans la situation à laquelle on se trouve, le monde a ces mêmes tentations pour nous. C'est pourquoi Jean dit dans son premier épître, au chapitre 2, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Et plus précisément, vient du prince de ce monde, vient de Satan. Quand on succombe à ses attraits, on s'attire automatiquement le malheur et des conséquences. Puis malheureusement, lors de la première tentation, l'espèce humaine a échoué. On voit que l'orgueil s'est vu tout de suite dans les réponses même d'Adam et Ève à Dieu lorsqu'il est venu les voir. Ils ont rejeté la faute sur quelqu'un d'autre. Tout de suite, on a vu qu'ils étaient tombés dans l'orgueil et que cette roue avait commencé à tourner. C'est Ève qui a été séduite en premier. Mais ce sont Ève et Adam qui ont péché. On peut faire l'erreur de croire que c'est à cause de la femme que l'humanité est tombée dans le péché. C'est vraiment Adam et Ève qui ont péché ce jour-là. Même il est dit que Adam se trouvait à ses côtés. Il l'a vu faire, puis il n'a rien fait. C'est vraiment les deux qui ont péché. Puis même Adam a particulièrement péché en tant que responsable du couple. Et même en tant que représentant de la race humaine, c'était Adam. Dans Romains 5, on voit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a passé sur tous les hommes. » C'est à lui que Dieu même avait donné le commandement. « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et lorsqu'il lui a donné le commandement, Ève n'était même pas encore formée. C'est à Adam que Dieu avait donné ce commandement. Il était le représentant du couple, le représentant de l'humanité. Et c'est à lui que Dieu s'adresse en premier, après qu'ils ont chuté, lorsqu'ils sont cachés. C'est à lui que Dieu demande des comptes. Mais les deux étaient complices. Et les deux n'échappent pas à la condamnation et à la malédiction. Les deux étaient complices, ça fait penser à Ananias et Saphira dans le Nouveau Testament, où les deux s'étaient entendus. Les deux étaient d'accord pour manger de ce fruit. Bon, ils ne l'avaient peut-être pas prémédité, mais les deux sont tombés dans le piège en même temps. Et tous les deux ont rejeté la faute sur un autre. Ça n'a fait qu'aggraver leur cas. Puis pour faire le mal, on voit que lorsqu'ils ont fait le mal, ils ont inversé l'ordre naturel que Dieu avait fixé. L'ordre naturel est décrit dans 1 Timothée. Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Mais Adam a été formé le premier, c'était à lui de prendre l'initiative, de conduire, d'instruire sa femme sur l'ordre que l'Éternel lui avait donné. C'était à lui de prendre la responsabilité de veiller, de protéger le couple. Mais on voit que c'est la femme qui a pris l'initiative. Elle a dominé sur lui. Puis l'homme, lui, il est resté passif. Il n'a pas protégé le couple. Toute l'espèce humaine est tombée à ce moment dans le piège, dans la prison de l'orgueil, qui rend incapable de s'humilier, de reconnaître ses torts. Puis la première conséquence de cette faute-là, aussitôt que leurs yeux se sont ouverts, c'est qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. En devenant chacun d'eux capable de juger, parce que réellement, ils sont devenus capables de juger, de décider par eux-mêmes de ce qui était bien et de ce qui était mal, comme nous sommes capables aujourd'hui. Mais à l'instant où ils ont été capables de juger, ils devenaient eux-mêmes tout de suite des rivaux. C'est une explication qu'on peut trouver pourquoi ils ont eu honte d'être nus. Ils devenaient des rivaux, comme deux dieux qui peuvent juger eux-mêmes du bien et du mal, et qui peuvent se juger l'un l'autre, qui sont eux-mêmes vulnérables au jugement de l'autre. Et leur différence devenait apparente. Les différences avant n'avaient pas d'importance, parce que c'était à Dieu de juger de ce qui était bien, de ce qui était mal. Mais là, ils ont commencé à juger d'eux-mêmes. Donc, leur différence physique devenait importante, pouvait devenir sujet de critique de la part de l'autre. Et on voit qu'ils se sont habillés tout de suite pour redevenir à peu près semblables. Mais ils avaient honte. La honte, c'est la peur d'être jugé comme étant mauvais. C'est la crainte que les gens pensent qu'on est mauvais. En se couvrant, ils redevenaient semblables. Mais avant la chute, ils n'avaient pas honte. C'était Dieu le seul juge. En lisant le texte, parce que Dieu les avait avertis qu'ils mourraient, on s'attendrait que la première conséquence aurait été qu'ils soient morts sur le champ. Dieu avait dit, ce jour-là, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Mais c'est vrai que le jour où ils en ont mangé, leur corps a été changé, ils sont devenus des êtres vieillissants, destinés à mourir. À partir de ce jour, aucun homme, aucune femme ne pouvait échapper à sa destinée de mourir physiquement. Mais encore plus terrible, c'était la mort spirituelle. Ils n'avaient plus Dieu pour seul maître. Ils étaient automatiquement séparés de lui. Automatiquement, ils se sont déclarés indépendants de Dieu. Ils n'étaient plus soumis dans une parfaite soumission, une parfaite relation avec Dieu. Eux-mêmes ont brisé cette relation parfaite en se nommant, en désirant eux-mêmes être Dieu. Puis à cause de cela, ils ont été coupés de la relation privilégiée avec Dieu, la relation privilégiés par son esprit. Ils ont été séparés de la source. L'image de Dieu a été séparée de la source. Et dans Éphésiens 2, on lit, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Il y a eu des conséquences naturelles, mais on voit que Dieu, c'est pas juste parce qu'il a laissé aller les choses. Il a appliqué son jugement ce jour-là. La malédiction du serpent était sa première sentence. Elle était autant physique que spirituelle. On peut croire qu'à partir de ce moment-là, le serpent, l'espèce du serpent a été condamnée à ramper sur le sol. Puis on voit encore le comportement aujourd'hui entre le serpent et l'humain. Bon, il y en a qui ont un serpent comme animal domestique, mais c'est plutôt rare. En général, quand il y a un serpent, il veut mordre l'humain. C'est une réaction normale, puis l'humain veut le tuer. Il y a vraiment une inimitié physique entre l'espèce humaine et l'espèce des serpents. Puis c'est encore un signe, même aujourd'hui, je pense, qui sert à nous rappeler les destinées des fils de l'homme et des fils du serpent, qui sont en fait les fils de Satan. Parce que le serpent spirituel, Satan, il est dit qu'il va réussir à attaquer le talon, à mordre ou à écraser. C'est le même mot, en fait, qui est utilisé. Il va réussir à blesser l'humanité, la descendance d'Ève. Et on l'a vu, malheureusement, il a fait sombrer le monde dans le péché, dans la rébellion face à Dieu. Et une grande partie de la population tombe sous son emprise et, sans le savoir, sont des fils de la perdition. 1 Jean 3, 8 le dit, « Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et dans 1 Jean 3, il dit, « Ne faisons pas comme Caïn, qu'on va voir la semaine prochaine, qui était du malin. » Donc Caïn est appelé du malin et qui égorgea son frère. Mais dans la prophétie de Dieu, dans son annonce, la descendance d'Ève va pouvoir, même si elle est blessée, va pouvoir avoir le dessus sur le serpent et lui écraser la tête. Certains comprennent dans différentes traductions qu'il s'agit qu'il écrasera la tête ou la descendance écrasera la tête, mais c'est la même chose. On comprend, on apprend ensuite dans la lecture de la Bible que celui qui écrase la tête du serpent, c'est Jésus, mais qui représente la descendance. Il se met comme représentant de la race humaine, de la descendance d'Ève. Donc, en Jésus, c'est la descendance d'Ève qui écrase le serpent. Ça avait été prophétisé par Dieu. Le Fils de l'homme, c'est comme ça que Jésus se présente. Le descendant d'Adam et Ève, le descendant d'Ève, le Fils de l'homme, allait effectivement vaincre Satan à la croix. Puis par Jésus, le représentant des hommes, les descendants d'Ève allaient être victorieux et conduire Satan à la destruction, à être écrasés. Puis ses descendants, ce sont ceux qui sont appelés dans le Nouveau Testament les enfants de Dieu. Dans Hébreux 2, on voit très bien cette image. Celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, et ceux qui sont sanctifiés, les enfants de Dieu, sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi, d'une manière semblable, y a participé, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est fort comme image. Et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. On ne voit pas encore, nous, la tête du serpent qui a été écrasée. L'œuvre que Christ a faite. Mais un jour, on va le voir. Un jour, on va même être participant. À Hébreux 2, 8, il dit, tu as mis toutes choses sous ses pieds, en lui soumettant ainsi toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Dans Romains 16, 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Puis Dieu a laissé d'autres signes aussi de sa malédiction. Toutes les bénédictions qu'il a données dans le jardin d'Éden sont restées, mais ont été entachées, ont une empreinte de la malédiction, qu'on se souvienne de ce qu'on a perdu. Dieu n'a pas enlevé, qu'on ne sache même pas ce qu'on a perdu, il nous l'a laissé, mais a amené une malédiction. Par exemple, la bénédiction de se multiplier sur la terre, d'avoir des enfants. On a vu que d'avoir des enfants, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais Dieu met maintenant une douleur associée à cela. Les douleurs de l'enfantement. Puis même par le verbe « enfantement », on comprend que c'est la grossesse, c'est l'accouchement, et c'est même la mise au monde de cet être-là. Même, on pourrait comprendre, élever un enfant dans le monde, c'est pas facile. Un enfant qui est lui-même pécheur, il y a une douleur associée à cela. Ça montrait même un premier signe que la malédiction, le péché d'Adam et Ève allait être héréditaire sur les enfants. On voit aussi la malédiction de la domination de la femme par l'homme. Le couple qui avait été béni et dont la femme avait été mise à côté d'Adam pour être son vis-à-vis, son aide, qu'ils avaient formé une seule chair, une seule unité parfaite pour être heureux, bien là, ça aussi, ça devenait avec une tache de malédiction. La volonté de Dieu est encore qu'ils forment une seule chair, mais la relation est entachée par le péché. La femme souhaite, ici, depuis ce jour, ses désirs se tournent vers son mari. On pourrait comprendre qu'elle souhaite posséder son mari, ou le contrôler même. Elle souhaite renverser les rôles, mais c'est large comme image. Certains réduisent ça au désir sexuel, mais je ne pense pas que c'est ça, là. Je pense que les hommes ont autant un désir, peut-être plus. Mais je pense que c'est le désir de la femme de se tourner vers son mari, mais de le posséder, ce qu'on retrouve moins chez l'homme. Et malgré elle, malgré ses tentatives, l'homme domine sur elle, mais d'une manière négative. Il domine sur elle comme il était chargé de dominer sur la nature. Il domine sur la femme comme il domine sur les animaux, comme sur les ressources naturelles. Ce n'était pas ça, le plan originel de Dieu. On voit le péché qui s'est infiltré. L'homme domine sur la femme, on l'a vu à travers les siècles, avec un manque d'amour, un égoïsme, en pensant à ses intérêts, à lui-même, avant ceux de sa femme. Mais heureusement, en Christ, la relation époux-épouse peut être établie selon le plan original. D'où son ordre. Femmes, soyez soumises à vos maris, mais d'une manière volontaire et heureuse. Et Marie, aimez vos femmes. Arrêtez de dominer sur elles, de penser seulement à vous. On voit aussi un aspect de la bénédiction dans le travail, qui est aussi une bénédiction. On voit, c'est Ronald qui nous l'a partagé la semaine passée. Dieu a mis l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Il les a chargés de cultiver le jardin, mais c'est supposé d'être une tâche, un plaisir, seulement un plaisir. Mais c'est devenu un fardeau. On peut trouver une joie dans son travail, mais il reste toujours un certain fardeau. Il faut se lever le matin là, pour aller travailler, c'est pas facile. Puis il y a certains travaux qui sont durs. Puis même la terre elle-même, pour produire, pour qu'elle produise du fruit, on doit vraiment l'entretenir. Ça devient ardu, la culture. Le travail est toujours une bonne chose, mais l'homme va devoir maintenant vivre avec des soucis toute sa vie. Même pour ceux qui disent avoir la vie facile, même pour ceux qui sont millionnaires, ils vivent avec une inquiétude, la misère à dormir le soir. C'est un souci de devoir survivre, la peur de manquer. Puis, la malédiction principale, qui est un signe pour nous, c'est la mort, qui est un signe qui nous rappelle qu'on a perdu. Ce qui est le plus précieux pour nous, c'est de vivre éternellement. L'immortalité, on l'a perdue. Donc, tous ces aspects-là de la malédiction sont là pour nous rappeler ce qu'on a perdu, mais ce qu'on peut gagner. Ensuite, on voit que Adam, tout de suite après que Dieu est maudit, la postérité, autant du serpent que d'Ève, l'homme donne à sa femme le nom d'Ève. Ève qui signifie la mère des vivants. Mais c'est quelque chose de bien là-dedans. C'est que tout de suite après avoir été maudit, l'homme donne à sa femme qui n'avait encore jamais eu d'enfant. Il n'avait jamais encore vu de bébé là, de leurs yeux. Mais on voit, on peut comprendre par là qu'il a cru. Un premier signe de la foi en son Dieu. Et il a cru qu'il allait avoir des enfants, et il a nommé sa femme, avant même qu'elle ait des enfants, la mère des vivants. Et il a cru, en la promesse de Dieu, qu'elle allait avoir une descendance. On peut croire que Adam a mis sa confiance en l'Éternel. On peut espérer qu'on va le voir, Adam, pour l'éternité au ciel. Puis Dieu leur a fait des habits de peau. Il ne les a pas laissés dans l'état où ils étaient. Il ne les a pas détruits dans sa colère. Il les a maudits, oui. Il les a privés de la relation avec lui. Mais il a corrigé la situation qui n'était pas adéquate. Il leur a fait des habits corrects. Et pour cela, c'est significatif, je pense. C'est des habits de peau. Il y a eu pour la première fois un animal mort, ou peut-être même plusieurs animaux qui ont été sacrifiés pour prendre leur peau, pour faire des habits à Adam et Ève. Dieu a fourni lui-même le premier sacrifice pour rendre Adam et Ève agréables à ses yeux, temporairement. C'est quelque chose qui a dû être répété et répété. On voit que ceux qui étaient fidèles à Dieu offraient des sacrifices. Et Dieu en a même fait un ordre, des prescriptions, lorsqu'il a donné sa loi à Moïse. Mais c'était toujours à répéter, c'était imparfait, c'était temporaire, jusqu'à ce que Dieu fournisse le dernier sacrifice. Et c'est encore Dieu qui l'a fourni lui-même. Dieu qui a pris l'initiative de fournir le dernier sacrifice, l'agneau parfait, Jésus. Et là, le sacrifice n'a plus besoin d'être répété. Même dans Romains 13, il dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ». Comme si Christ, parce qu'il a été tué, on pourrait avoir des habits avec la peau de Christ et s'en revêtir. Comme Adam et Ève ont été revêtis du premier animal qui a été tué. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais Dieu, même s'il a été capable de communiquer quand même avec Adam et Ève, il les a rendus assez agréables à ses yeux pour avoir une relation temporaire avec lui, ne pouvait pas permettre qu'il reste toujours dans sa présence, en relation intime avec son esprit. C'est pour ça qu'il les a chassés du jardin d'Éden. De peur qu'ils ne mangent de l'arbre de la vie éternelle, qui, lui, n'avait pas été interdit. Même on pourrait croire qu'ils en mangeaient, probablement, lorsqu'ils étaient. Ça ne dit pas qu'ils n'en avaient pas mangé. Le seul arbre qui avait été interdit, c'est la connaissance du bien et du mal. Mais ils avaient la possibilité, étant en Éden, de vivre éternellement, d'être immortels. On peut croire que c'était en mangeant de cet arbre-là. Mais là, il n'était plus question qu'il soit immortel. Immortel, rebelle à Dieu, privé de sa relation avec lui. De toute façon, c'est pour eux, pour l'humanité, de vivre de manière éternelle sans Dieu, c'est insoutenable. Dieu ne pouvait pas laisser faire une telle chose et il les chasse loin de sa face. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À partir de ce jour, l'humanité a été privée de sa gloire. Puis des chérubins ont été placés à l'entrée du jardin. Les mêmes chérubins qui sont représentés au-dessus de l'arche de l'Alliance. Le seul endroit où Dieu venait en présence pour avoir une communion avec son peuple dans le temple, dans le lieu très saint. Les chérubins qui gardaient cette entrée-là. Donc, on a vu l'épreuve que même le serpent qui a tenté Adam et Ève, c'est ce même serpent qui nous tente encore aujourd'hui. On doit être conscient que c'est Dieu qui nous met à l'épreuve pour notre bien. Ne pas dire que Dieu me tente et il me fait tomber. Ne pas tourner notre colère vers lui. C'est pour notre bien qu'il nous met à l'épreuve, qu'il nous teste, pour nous rendre plus forts. Et le moyen de résister à la tentation, il nous est donné. C'est d'obéir fidèlement à Dieu, de connaître sa parole de plus en plus, de savoir distinguer le bien et le mal selon son barème. Plus on apprend à connaître, plus on acquiert la sagesse de Dieu pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal, plus on va discerner les pièges du diable et on va pouvoir lui résister. Dans Jacques 4, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistons à celui qui semble être, à ce qui semble être un besoin physique, comme si c'était essentiel, mais qui est mauvais. Résistons à cela. Résistons à ce qui semble beau. Certains vont dire, mais si c'est beau, ça ne peut pas être mauvais. Oui, ça peut être mauvais. Si Dieu le déclare mauvais, c'est mauvais. Résistons à la tentation de nous placer comme propre juge de ce qui est bien et mal. Ce n'est pas une question de notre intelligence pour juger de ce qu'on doit faire. On doit s'en remettre à l'intelligence de Dieu, à la sagesse de Dieu. Et résistons à la tentation d'être juge de nos frères et sœurs. Il est dit dans Jacques 4, « Ne médisez pas sur les autres, les uns des autres, frères. Celui qui médit un frère ou qui juge son frère, médit la loi et juge la loi. Si tu juges la loi, tu n'es pas observateur ou soumis à la loi, mais tu en es le juge. Pourtant, il y a un seul juge qui est législateur et juge et qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? Malheureusement, le premier homme a chuté, et ça peut nous arriver encore de chuter aujourd'hui. Mais heureusement, on a un représentant. Le représentant d'Adam, en tant que représentant de la race humaine, est assez. Nous avons un nouveau représentant, Jésus, qui lui n'a jamais chuté et qui a été tenté de la même manière que nous. Dans le désert, il a été tenté pendant 40 jours. Jamais il n'a chuté. Jamais il n'a ouvert la porte au péché, à l'orgueil. Nous avons un représentant parfait. C'est lui qui représente maintenant l'espèce humaine. Il a passé l'épreuve, il a supporté la tentation sans jamais tomber. Le jugement de Dieu qu'il y a eu le jour où Adam et Ève ont chuté est maintenu. Son jugement est perpétuel, éternel. Il n'a pas été enlevé. Son jugement de mort, sa malédiction, sa condamnation à mort. Et puisque tout son péché, la condamnation a été envoyée sur tous les hommes. Dieu ne l'a pas enlevé, mais Jésus, comme un représentant, a pris les péchés de tous, les a mis sur son dos, et la condamnation de tous, la malédiction de toute l'humanité, est tombée sur lui. Il a pris les péchés de tous ceux qui acceptent de faire de Jésus leur représentant, qui acceptent que Jésus est leur drapeau, leur bannière. Ceux qui l'acceptent, leurs péchés ont été mis sur lui, et leur condamnation est passée sur lui aussi. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Il a ridiculisé le serpent, sa tête a été écrasée. Et par Jésus, même l'arbre de vie dont l'humanité a été privée va nous être redonné. Il est dit dans Apocalypse 2, 7, « Au vainqueur, je donnerai à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » On va goûter de ce fruit et vivre pour l'éternité. Et les mêmes chérubins qui barraient l'entrée du Jardin d'Éden et qui était à la porte, au-dessus de l'arche, qui faisait comme une frontière entre l'homme et Dieu. Ces mêmes chérubins-là sont décrits dans Ézéchiel comme étant des êtres vivants. Ils sont décrits dans l'Apocalypse comme étant ceux qui chantent les louanges. Ils ne sont plus là pour barrer le chemin, ils sont là pour chanter avec nous les louanges de Dieu. Dans Apocalypse 5, quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants, qui sont les chérubins, et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades, des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et toutes les créatures dans le ciel et sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen.